le temps que la technique me renvoie, je vais me présenter brièvement. Je suis Olivier M. Je travaille à Thomson Recherche et Innovation à Rennes, juste à côté, dans le laboratoire CBE.
Bonjour, je suis Corté. Je travaille à l'Université Bretagne, à Rennes.
Franck Bessier, France Télécom. Avant de commencer cette conférence avec une déclaration à faire, je vous laisse lire. Le logiciel Ring dans sa version 1 est diffusé sous une licence GPL par la société Intramode. Les auteurs ont travaillé sur un certain nombre d'évolutions de ce logiciel en conformité avec les règles imposées par la licence GPL et ainsi ont pu obtenir une version 2. Afin de clarifier la dénomination de ce logiciel, cette nouvelle version sera distribuée sous le nom de ChronOS et donc nous allons vous présenter aujourd'hui ChronOS.
Donc en fait, l'exposé est en trois parties. Une première partie avec des choses relativement générales sur l'OS fingerprinting, la détection à distance des systèmes d'exploitation opérationnels, les tenants et aboutissants du domaine, pourquoi ça peut être complexe. Une deuxième partie plus spécifique sur les techniques mises en œuvre dans ChronOS. Et puis ensuite, c'est l'outil Contech qui intervient pour une partie plus basée sur un retour d'expérience de l'utilisation de cet outil dans des conditions quasi réelles. Donc, l'OS fingerprinting, la reconnaissance à distance de systèmes d'exploitation, ça peut servir à beaucoup de choses. La liste est longue. J'ai extrait comme ça un certain nombre de choses. Auditer les configurations, réaliser des audits de sécurité. Et ça peut être aussi administrer un patch, par exemple dans l'intention d'y détecter des machines pas tout à fait standards. Dans le cas d'un parc où on a des machines calibrées, voire même suivre un déploiement, je suis en train de déployer un service pack, un élément important qui change l'empreinte, la signature de l'OS, j'ai envie de suivre mon déploiement en interne, je peux utiliser ce genre d'outil. Aider d'autres logiciels, en fait, c'est très générique ce que j'ai marqué là, ce que j'avais en tête, c'est par exemple les IDS, pour savoir si, lorsqu'ils détectent une attaque, elle est bien destinée à une machine dont la dernière empreinte, si possible récente, correspond à un système vulnérable à cette attaque ou pas. Ça peut servir aussi, de façon un petit peu plus technique, à bien comprendre ce que font les pirates, en termes génériques, éventuellement à fabriquer de meilleurs leurres pour mieux les attraper. Alors, ce que je vous propose, ça n'a pas planté, hein. Ce que je vous propose, c'est pendant 3 minutes de faire un petit peu d'OS fingerprinting avec le matériel qu'on a à disposition, c'est-à-dire le matériel de rétroprojection, vos yeux, vos cerveaux. Donc en fait là j'ai fait, c'est bon, tout le monde est là, j'ai fait en fait une photographie d'un écran, j'ai stimulé un système d'exploitation, j'ai mis dans un état particulier, pas forcément normal, je l'ai photographié, et puis on essaye de le reconnaître, je vais vous aider. Donc ça c'est un Windows 3.11, c'est un Windows. Donc en fait ce qu'on fait c'est quoi? C'est on collecte un certain nombre d'éléments visuels en l'occurrence, on les confronte à une base de données qui est notre mémoire, surtout pour les plus anciens d'entre nous, et puis à partir d'un algorithme de matching de correspondance enfin, plus ou moins évolué, hein, qui appartient à nous, on dit tiens, ça c'est un Windows 3.11. Bon, il y en a 2-3 comme ça, on va faire un deuxième exemple. Alors là, celui-ci est intéressant, il est extrêmement typé, il est très contrasté par rapport au précédent, il n'y a pas de risque de confondre. C'est du noir et blanc. Quelque part, mon seuil n'est pas très bien cadré, mais normalement quelque part il y a une petite pomme vers le haut de l'écran là. Bon, ok, c'est du macOS, en l'occurrence c'est du macOS 7.0, c'est pareil, c'est relativement ancien. On a collecté finalement peu de temps, suffisamment d'éléments pour confronter une base de référence qui est là chez vous, et dire ok, c'est du macOS. Alors, on va rajouter quelques dimensions dans la façon de faire. Voilà une nouvelle photographie d'écran. Ça sent l'Unix. Si vous regardez un peu les bordures, ça sent le OLWR ou des choses comme ça. Ça nous situe un petit peu l'époque. Et puis à un moment donné, notre regard approche un élément discriminant. Là, il y a un logo Sun. Donc en fait, un Unix, c'est un Sun. Ça sent le OLWR. C'est pas récent, c'est du SunOS quelque chose 4.3. En l'occurrence, c'est un SunOS 4.3. Donc là, on n'avait pas d'éléments extrêmement précis. On avait pas un faisceau d'éléments qui nous a permis de passer ça, mais en mélangeant le logo, en mélangeant l'époque, etc., on arrive à se faire une unité. Et donc, un dernier exemple, avant de devenir lassant, voici quelque chose aussi qui sent l'unique. Et là, notre regard approche tout de suite un élément extrêmement discriminant. Petite veule, enfin, c'est du fruit de la terre. Donc là, en fait, on a faux. Le petit veuve, il est à l'intérieur d'une fenêtre de navigateur. En fait, je viens de faire une fausse détection. D'accord ? J'ai accroché un élément visuel qui m'a permis de typer très fortement l'OS que j'essaye de reconnaître. Et en l'occurrence, cet élément visuel n'est pas pertinent. J'ai pas attrapé son contexte qui me permet de dire oui, d'accord, il y a un petit diable, mais en l'occurrence, il compte pas parce que c'est dans une fenêtre. D'accord ? Donc en fait, ça me permet simplement d'illustrer les grands principes de l'OS Finger Painting, que ce soit passif, actif, on y reviendra rapidement. Les grands principes de l'OS Finger Painting sont toujours les mêmes. On stimule une cible, donc là, la stimulation, c'est moi qui l'ai fait, j'ai juste fait afficher l'écran. On capte les réactions à la stimulation, c'est ce que j'ai fait aussi en photographiant les écrans à l'écho dans mes slides. Vous les avez captés avec votre œil. Ensuite, on analyse et on confond par rapport à une base de référence, nos mémoires en l'occurrence, et puis quand ça coince, quand on n'a pas assez d'éléments, ou quand on a des éléments contradictoires, et quand on a la chance de comprendre qu'ils sont contradictoires, à ce moment-là, on peut réitérer. Pour débrouiller des mesures, on peut réitérer. Donc ça, c'est les grands principes. Par rapport aux techniques actives, pour faire simple, quand c'est la même personne, la même entité qui provoque les stimuli, qui mesure les réactions, qui confronte à la base, on va plutôt parler de techniques actives, et quand c'est une personne, un tiers, ou des stimuli génériques qui sont mesurés, pas spécialement provoqués, on va plutôt parler de techniques passives. Alors, en restant au même niveau de discours que ce principe extrêmement général, que ces principes extrêmement généraux, on peut déjà déterminer d'emblée un certain nombre de difficultés à prévoir en matière de reconnaissance de systèmes d'exploitation. Il y a trop d'inconnus. L'inconnu numéro 1, c'est le système d'exploitation qui est en face de nous. Dans le cas général, si on essaie de le détecter, c'est qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. D'une part, on ne le connaît pas, et puis en plus, on ne sait pas dans quel état il est. Est-ce qu'il est en train de fonctionner? Est-ce qu'il est correctement connecté, etc. Donc, on va lancer un stimulus bien particulier, dont on attend une réaction. On ne sait pas exactement sur quoi. On ne sait pas l'effet que ça va induire sur la cible. Bien sûr, et on aura l'occasion d'y revenir, il y a l'effet du médium. Hein, c'est-à-dire que, est-ce que c'est bien le stimulus que j'envoie qui est reçu? Est-ce qu'il n'y a pas des composants intermédiaires qui vont un petit peu modifier le signal? Et puis de façon encore plus générique, vous verrez en annexe des slides, j'ai mis un petit point précis sur les quatre causes positives et les causes négatives. Donc de manière encore plus générique, on a des cas d'échec ambigu. J'ai un outil de la Finger Painting, je le lance, il trouve quelque chose. Super. Est-ce qu'il a trouvé le bon truc? Est-ce qu'il n'a pas trouvé le bon truc? Il trouve rien. Super. Est-ce que c'est normal parce que ça correspond à un OS qui n'est pas dans sa base? Ou est-ce que c'est anormal? Parce que l'OS était dans la base et il aurait dû le trouver. Et c'est extrêmement ambigu. Il est rare de pouvoir déterminer dans quel sous-cas on se trouve pour avoir une démarche à progrès simple. Alors, les motivations du problème, la multitude des techniques possibles et la complexité que j'ai rapidement évoquée sont autant d'éléments qui expliquent la profusion de techniques et d'outils qu'on va trouver pour faire le OS Finger Painting. Donc là, je dis, il y a des techniques actives, des techniques passives. Parmi les techniques actives, il y a d'anciennes techniques qui marchaient extrêmement bien à la main, donc la collecte, donc la technique la plus ancienne qui soit, c'est d'interroger poliment le système, de lire la bannière, et bien souvent dans la bannière, il dit quel OS il est, parfois même le numéro de version précis, parfois même le numéro de page. Ça peut fonctionner. Il y a la collecte de binaires, donc essayer de récupérer sur le système un binaire qui type, qui signe fortement le système, voire même, c'est un peu destructeur, mais essayer de provoquer un corps, ravaler le corps par un service quelconque du système, s'il y a un serveur HTTP par exemple, et décortiquer le corps qui contient autant d'éléments qui sont des signatures précises du système. En deuxième lieu, et là il y a les techniques les plus populaires, c'est les techniques d'empreinte de pile. Donc là les techniques d'empreinte de pile, elle respecte un prédicat, elle dit ok, on va renoncer à reconnaître l'operating system, on va juste reconnaître sa pile IP, puis bon, de temps en temps, il y a des operating systems différents qui ont exactement le même stack IP, bon, maintenant qu'ils font le deuil de cette imprécision-là. Et donc là-dedans, on a trouvé, alors il n'y a pas d'ordre particulier de classement, des réponses ICMP, l'analyse d'initial sequence number, je reviendrai dans deux slides, des analyses d'entête et de paquets un petit peu particuliers, et puis des techniques d'analyse temporelle que je vais détailler en deuxième partie. Pour ce qui est des techniques passives, un domaine que je connais bien moins, en général, elles sont essentiellement basées sur des écoutes du réseau, et puis après, il y a des variantes. Et donc, on étiquette l'art des techniques par divers outils, alors c'est loin d'être exhaustif, par divers outils, vous connaissez par exemple Xprop V2, et puis, à tout seigneur, tout honneur, Nmap, qui est probablement l'outil le plus populaire, donc qui reconnaît quelque chose comme 700 OS, en tout cas qui connaît dans sa base quelque chose comme 700 systèmes d'exploitation différents. Et puis, les techniques d'analyse temporelle, illustrées par des outils comme Remove, de la société Intranot, ou l'outil Chronos. Alors, difficile de parler d'OSFP sans passer au moins un transparent sur Nmap. Nmap, en fait, mixe un certain nombre de techniques qui sont des interrogations, TCP, ou UDP d'ailleurs, sur des ports ouverts ou des ports fermés, ils mixent les deux. Et puis, ces interrogations, elles sont parfois tout à fait standards, respectueuses des RFC, normales, et de temps en temps complètement absurdes au sens des RFC. En se basant sur des différentes implémentations, des différences de réaction des OS en cas de sollicitation absurde, eh bien, à ce moment-là, il va essayer de confronter à sa base avec un algorithme de machine qui est relativement à seuil, et puis déterminé. Juste pour illustrer une autre technique, hélas, on n'a pas le temps de faire tout le catalogue, ça, c'est la reconnaissance des profils d'initial sequence number. Donc en fait, à l'établissement d'une connexion TCP, il y a un certain nombre de valeurs qui sont tirées aléatoirement. Tout ça, c'est généré avec un petit générateur aléatoire qui est à l'intérieur de la stack, qui est plus ou moins de bonne qualité, et qui, en tout état de cause, n'a pas les mêmes tests de type I2, selon les OS, selon les implémentations. Donc, en sollicitant, en envoyant énormément de signes de demande de connexion à un stack IP, on va faire une cartographie des entiers aléatoires générés au fil du temps, et si on en envoie suffisamment, on obtient une image qu'on peut reconnaître à l'œil nu et qui va équiper l'OS. Donc ça, c'est une technique extrêmement bruyante, un petit peu difficile à automatiser, mais qui montre bien la largeur du spectre des techniques pour faire l'OS mieux compliqué. Alors, donc, ce qui m'amène à la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, c'est un zoom sur, parmi toutes ces techniques, les techniques d'analyse basées sur le temps temporel. Donc, pour bien expliquer ces techniques-là, il faut revenir sur deux points importants du protocole TCP, qui sont l'établissement d'une connexion full duplex, entre un client et un serveur, et la gestion de congestion ou d'éléments perdus. Donc, par rapport à l'établissement de la connexion, TCP c'est un protocole full duplex, la connexion s'établit de la manière suivante. On a un serveur qui a déclaré qu'il était en attente passive d'une demande de connexion. On a un client qui souhaite établir une connexion avec le serveur. Il envoie un signal, synchronisons-nous, avec un entier aléatoire X. Le serveur prend bonne note de réception de ce signal avec un signe receive, il passe dans un état interne, signe receive, et il acknowledge. Il accrédite cette demande de connexion et au passage il lui demande d'ailleurs au client de bien vouloir lui envoyer le paquet X+1. Toujours dans le même message, il dit si on veut se connecter, on est full duplex, moi aussi il faut que je me connecte à toi, j'envoie un signe, une demande de synchronisation avec un entier Y. Le client, s'il est toujours dans des dispositions favorables, acknowledge cette nouvelle demande de connexion, et voilà, à ce moment-là, on a quoi? On a deux demi-connexions, chacune dans un sens, et on a le fait que le client et le serveur sont informés du fait qu'ils sont connectés. Alors, ça, il demande de garder ça en tête juste une minute, et puis maintenant, on va voir ce qui se passe en cas de congestion. TCP, il prend un certain nombre. Alors, pardon, effectivement, ça va, il est dans les tests affichés à ce moment-là. Donc, TCP, il prend un certain nombre d'engagements par rapport à son fonctionnement. Il veut délivrer les paquets, si possible, dans le bon ordre. Il veut délivrer, il veut retrouver les paquets perdus, reconstituer les paquets perdus. Il veut que le contenu des paquets ne soit pas détruit. Donc, et ce, dès l'établissement de la connexion. Donc on va essayer de voir ce qui se passe quand il y a congestion, perte de paquets, dès l'établissement de la connexion. Le client dit « je veux me connecter », le serveur passe dans son état cible récible, puis il confirme, et là, pendant un certain temps, plus de son, plus d'image. Pas de réponse, alors qu'il a tourné quelque chose de la partie client, plus de son, plus d'image, il n'y a pas de réponse. Donc, au bout d'un certain temps, le serveur s'inquiète, il va dire « mais si se passe, ça congestionne », et il réitère sa demande. Et puis il a envie de faire ça plein de fois, jusqu'à ce que l'autre lui réponde. Alors évidemment, si on fait ça comme ça, ça va être la catastrophe, parce que le serveur, ça congestionne, réitère des demandes régulièrement, et va entretenir la congestion, voire même l'aggraver. Donc les RFC sont prudentes par rapport à ça, et préconisent un mécanisme, dire « attention, la deuxième fois, il faut attendre plus longtemps ». Normalement deux fois plus longtemps, donc il met en branle un deuxième timeout, plus long que le précédent. Pire demande, qu'est-ce qui se passe? Je reçois rien de toi. Et ainsi de suite. D'accord? Ça fait penser un petit peu à des choses qu'on voit aussi en 802.3 par exemple, enfin, c'est des mécanismes d'attente incrémentaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à cet état de fait, les RFC explique bien qu'il faut attendre de plus en plus longtemps et pas aggraver la congestion. Elles expliquent en gros dans les grandes lignes comment il faut faire. Elles sont muettes par rapport à combien de temps il faut attendre exactement. La première fois, puis la deuxième, puis la troisième, elles sont relativement muettes. Elles sont muettes aussi, il y a certains serveurs qui décident de jeter l'éponge au bout d'un temps. Ils disent ok, bon, on n'entend plus rien, on va arrêter, ils envoient un reset. C'est complètement libre, les RFC ne sont pas précises par rapport à ça. Donc chaque éditeur, en fonction des conditions idéales qu'il pense être pour l'utilisation de son système d'exploitation, va faire son petit réglage à lui. D'ailleurs, si on change ses réglages, bien souvent, on dégrade un peu les performances TCP de la machine. Ces variations d'implémentation, toujours dans le cadre global de la RFC, elles peuvent être importantes, et elles sont autant d'éléments qui vont signer, qui vont typer un stack IP particulier. Donc, on arrive au premier principe. C'est exactement le principe qui est mis en œuvre dans l'outil de ce site internet. Donc en fait, on emmène le serveur dans l'état sim récible, puis on ignore ses réponses. Par contre, on prend grand soin de mesurer le delta T entre chacune des réponses. Après, il restera à confronter cette suite de mesures à une base de référence, plus dans de bonnes conditions, on aura besoin de revenir, pour essayer de tenter une déduction. Donc ça, c'est les bases de l'analyse temporelle. Alors, ce principe-là, il peut s'étendre à bien d'autres étapes. TCP/IP, il est soigneux de la chaîne de congestion, de la perte de paquets, à toute étape du protocole, dès la connexion, aussi dans le fonctionnement, si on voit des payloads, voire même à la déconnexion. Donc nous sommes intéressés maintenant aux états liés à la déconnexion. Donc, on va revenir effectivement sur ce qui se passe en cas de déconnexion. Le cas le plus simple, c'est le client qui avait demandé à se connecter, a fait son travail, et il demande à se déconnecter proprement. Donc, pour ce faire, il envoie au serveur un paquet fin, il signale le souhait de fermer la connexion, et le serveur prend bonne note en passant dans l'état close void. À ce moment-là, il acknowledge le paquet fin, la réception du paquet fin, et puis surtout, puisque l'autre veut se déconnecter, bah, lui aussi il va fermer sa demi-connexion, donc il dit ok, bah, moi aussi je vais fermer ma demi-connexion, et il attend un acknowledge de la part du client. À l'issue de ce processus, les deux, alors à l'issue de ce processus, dans le cas général, quand tout se passe bien, les deux sont informés que la connexion est terminée. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand ils veulent se déconnecter de cette manière-là, mais qu'il y a congestion? Congestion simulée, on va le voir. Le client envoie son paquet. Le serveur passe en close wait, acknowledge, envoie lui-même sa demande de déconnexion, et là, le client ne dit plus rien. Le serveur conclut au bout d'un certain temps une congestion probable ou une perte de paquet et réitère sa demande. D'accord ? Je ne sais pas. On sait ce que ça congestionne un peu ? Thank you. pas de commentaire. Donc j'en étais où? J'en étais à plus de son, plus d'image. Et je crois qu'il y a une congestion, c'est ça? Ok, donc on revoit exactement le même genre de comportement d'acharnement, mais modéré, de plus en plus modéré. Donc ça, ça nous amène au second principe. Il suffit simplement d'amener le serveur dans l'état close wait, en demandant une fin de connexion standard, d'ignorer le arc, puis d'ignorer le fin, les fins, et en prenant soin de mesurer les delta t entre chaque fin. Le point que je vais mentionner là, à ce moment-là, c'est a priori, il n'y a pas de raison que les différentes implémentations sur la suite obtenues avec le premier principe soient corrélées très directement aux différences obtenues sur la suite relative au deuxième principe. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas exactement au même endroit du stack quand on se connecte que quand on se déconnecte. Les choix faits par les éditeurs, les libertés prises par les éditeurs par rapport au RFC un petit peu flou, ne sont pas forcément les mêmes en matière de connexion, en matière de déconnexion. Donc on va obtenir deux trains de mesure, pas forcément corrélés, pas a priori corrélés. Et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'on va pouvoir les recouper pour augmenter la qualité de la détection. Si on a un algo qui est capable de le faire et de matcher correctement. En fait, là, j'ai juste mis un extrait de RFC, pas rentrer dans le détail, et simplement pour que vous voyez un certain nombre d'éléments, on voit bien qu'il y a du x2 dans le délai d'attente, on voit bien que de temps en temps, il y a un must, mais aussi, un petit peu plus bas, il y a un mais, on voit qu'il y a une valeur maximum 60 secondes, vous voyez à peu près le niveau de précision, et le nombre de degrés de liberté que ça laisse à tous les éditeurs pour faire des variantes, des stacks. Je vous décris brièvement le troisième principe. De temps en temps, il arrive que ce soit le serveur qui a envie de se déconnecter. Dans ce cas, les rôles sont exactement inversés. Alors, un serveur déconnecte, par exemple, parce que son application lui dit « ferme proprement ». Et à ce moment-là, c'est le serveur qui prend l'initiative de la déconnexion et qui dit « au top, pour moi, fini ». Et là, bon, on a un processus qui ressemble exactement au processus précédent, hein, dans l'autre sens. Et quand il y a congestion, etc., etc., etc. Donc ça nous amène au troisième principe, effectivement, on a un troisième train de mesure, en fait il peut y en avoir d'autres, hein. On a un troisième train de mesure, pas a priori corrélé aux deux précédents, qui va nous permettre de déterminer le type de stack. Alors la justification à troisième principe, pourquoi on peut mettre en œuvre ce troisième principe, pourquoi il est atteignable, par exemple sur des serveurs web, justement c'est leur comportement normal à eux, en HTTP 1.0, de décider que ce soit le serveur qui décide de fermer la connexion. Hein, HTTP c'est sans état, donc des connexions TCP jetables en grand nombre, et donc systématiquement le serveur les referme aussitôt. Donc il suffit de demander grosso modo n'importe quoi à un serveur web pour qu'il établisse une connexion, pour qu'il renvoie des informations, ne te donne rien, et puis qu'il ferme aussitôt la connexion. Donc on peut l'amener dans l'état du troisième principe. Et effectivement, là il y a un petit détail, donc vous avez vu les rôles du serveur et du client sont inversés à ce moment-là. Hein, TCP c'est complètement full duplex. Quand vous êtes connecté à Internet, Internet est connecté à vous. Donc là, vous verrez en fait, sur j'ai mis un diagramme d'état en annexe, le serveur peut prendre des états qui caractérisent habituellement un client TCP. Donc il peut naviguer dans le diagramme d'état du client et passer par des états tel qu'un web. Donc je vais laisser la parole à Olivier, qui va faire un retour d'expérience sur l'utilisation de Chronos.
Donc, dans la première partie, Olivier nous a expliqué ce qu'était l'OS Fingerprinting, nous a expliqué quelques principes, notamment l'analyse temporelle. Donc, notamment pour valider notre approche, et aussi dans le but d'en faire un outil diffusé dans la communauté, on a décidé de nous faire une sorte de prototype en tant que proof of concept. Donc cet outil on l'appelle ChronOS. Alors vous pouvez voir en fait, c'est une ligne de commande pour appeler ChronOS. Vous remarquez que ça s'appelle NMAP ChronOS. Alors pourquoi? Parce qu'on a décidé, pour certaines raisons, de faire l'outil en tant que patch de NMAP. Car NMAP a de grandes fonctionnalités, on a décidé qu'il n'était pas nécessaire de réimplémenter. Donc on a fait une sorte de patch. Donc pour utiliser ChronOS, on prend le binaire, on spécifie la cible, ici c'est chal.noip.org. On précise les ports qu'on veut éditer, par exemple ici le port 80 c'est un port ouvert. On précise ensuite les méthodes qu'on veut utiliser. Donc l'idée vous a présenté trois méthodes, premier principe, deuxième principe, troisième principe. Donc en fait c'est précisé S, L, F pour faire les synonymes des états. Si le récit, en fait, il va se faire être 1. On précise aussi le temps pendant lequel on attend la réaction du serveur pour récupérer son comportement. Alors donc, parmi les nombreuses fonctionnalités de NLAP qui nous intéressaient, il y en a une qui nous intéressait particulièrement, c'était qu'il y avait un système de signature, c'est-à-dire de représentation du comportement d'un serveur, qui était très flexible et qui nous intéressait. Donc par exemple, ça c'est un exemple d'un fingerprint de NLAP. Donc vous voyez, ça commence par fingerprint Windows NT, donc ça concerne cette OS-là. En gros, la limite T1, ça correspond en fait au premier test qui fait TCP, c'est l'envoi d'un SIM sur un port ouvert. Donc ensuite, il y a un ensemble d'attributs qui suit ces amis. REST Y, ça veut dire que à ce test-là, on doit avoir une réponse. Il y a donc DF Y, ça veut dire que le bit, donc fragmente au niveau de le header TCP, est positionné. Donc il y a un ensemble de lignes comme ça avec beaucoup d'attributs. Alors nous, on a étendu la grammaire du fingerprint de NLAP pour intégrer ce qu'on avait besoin pour notre outil. Donc notamment, vous voyez, la ligne chronos sin. LB paquet, ça veut dire que on s'attend à recevoir deux paquets si on attend pendant 30 secondes la réaction du serveur, que le premier paquet arrive environ au bout de 2,8 secondes, et que le second paquet arrive environ au bout de 6 secondes. Vous voyez ensuite pour les autres étapes. Donc ensuite, une fois qu'on a généré cette signature, il y a un système qui compare une base de référence de signature et qui match. Plus il y a d'attributs qui sont proches, plus on est sûr qu'il s'agit de l'OS qui est dans la base. Il y a un autre, comme je vous l'expliquais, ChronOS est un proof of concept, donc il y a un petit problème de portabilité, parce qu'on a besoin pour développer cet outil, d'utiliser des fonctions avancées de NetFilter, c'est-à-dire que dans les deuxième et troisième principes, vous voyez en fait qu'on va refuser de répondre aux fins. Donc en fait il faut qu'on arrive à arrêter tous les paquets fins, mais à autoriser tous les autres, parce qu'il faut que la communication s'établisse, donc avec le serveur. Donc il faut qu'on arrive à autoriser tout ce qui est SIM, PAC et tout ça avec le serveur, mais à refuser de tout ce qui est fin pour qu'on simule un signe à congestion. Donc ça c'est un point faible de ChronOS qui est assez portable. Mais on peut signaler que Todd Basley de Point B Security a développé une version Perl qui s'appelle Snacktime. Donc on peut espérer que peut-être prochainement cette contrainte, parce que donc ChronOS est fortement lié à Linux 2.4. Bientôt il y aura une version compatible avec la libnet 1.1. Alors, une petite remarque aussi, ChronOS c'est un outil open source. Donc, tous les volontés sont la bienvenue pour améliorer l'outil, avoir des idées ou choses comme ça. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est un petit film qui émule un petit peu le lancement de ChronOS. Donc là, c'est la ligne de commande. Joli. Où en fait, on va uniquement à la méthode S, c'est-à-dire l'état SIN possible, le premier principe, où on va essayer de trouver à quoi correspond, en fait, c'est un FreeBSD quelque part. Donc il lance, au bout de, il se met en attente de réaction du serveur. Ah, il y a un paquet qui est arrivé, en fait, avec deux paquets qui sont arrivés, avec 3 secondes d'intervalle. Ensuite, il y en a encore un troisième qui est arrivé, 6 secondes après le deuxième. Et on peut. Donc on attend comme ça, faire toutes les réactions du serveur. Là encore un quatrième paquet, de 12 secondes. Et on a la réponse. Alors, ChronOS donne l'ordre des probabilités en décroissant. C'est-à-dire que lui pense que c'est un FreeBSD 4.5. Ou alors peut-être un FreeBSD 4.7, 4.8. Ou avec encore moins de chance, un Windows 4.5. Donc, pas trop. Alors maintenant, on va refaire le test avec NMAP sur la même cible. Toujours le même FreeBSD quelque part. Voilà. Il manque le tiret mot dans les lignes de commande. de map qui veut dire recouvre le sud. Voici mon petit. Donc, c'est une trace un petit peu curette. Donc, lui, il ne trouve pas l'OS, le exact OS pour l'OS. Alors, pourquoi on peut dire PhoneOS a trouvé c'est un FreeBSD, enfin, c'est ce qu'il pense. Nmap n'a rien trouvé. Nmap est un excellent outil de signal printing. Alors pourquoi y a-t-il une différence? Alors il y a plusieurs possibilités. Le FreeBSD qui est quelque part est protégé par un firewall. Donc comme Olivier l'a dit tout à l'heure, Nmap utilise des paquets non standard, fortement non standard. Ils n'ont aucun sens au niveau des RFC. Donc c'est très, très visible sur le réseau. Alors un firewall peut tout à fait se rendre compte qu'il y a des paquets bizarres, les associer à Nmap ou à une attaque, et dropper ces paquets. Ainsi, le firewall va changer le comportement de la cible. Et Nmap, donc ce qu'il va recevoir en signature, ne marchera plus avec ce qu'il a en base de référence, donc il n'arrive plus à détecter l'OS. C'est sûrement ce qui s'est passé dans ce cas-là. Ou alors, c'est tout simplement que l'OS qu'on essaie de détecter n'est pas encore dans la base, ou qu'il y a des problèmes de condition réseau. Bon, alors on va faire un autre exemple qui est un peu plus avancé. Donc là, ce coup-ci, on va lancer sur un OS quelque part. On va utiliser les méthodes L et F, c'est-à-dire l'attaque et firmware 1. Donc je rappelle que ces deux méthodes-là sont liées à au niveau de la déconnexion TCP, et non plus de la connexion TCP. On lance. Donc, pareil. Il se met en attente de réaction. Là, on a un paquet au bout de 1,4 secondes. Faut attendre. C'est un des problèmes de Chronos, c'est qu'il est un peu long. On peut lui reprocher ça. Mais par contre, il ne perturbe pas du tout le cible. Il discute des paquets standards de RFC et il ne perturbe pas non plus le réseau. Donc là, il refait une deuxième fois, ça c'est pour la deuxième méthode. Donc il y a un paquet au bout de 0,7 secondes, un autre au bout de 6 secondes. Donc là, ensuite, il devrait donner son résultat. Voilà, donc lui, vous voyez, il donne une sacrée liste de possibilités. Windows 2.4, c'est ce qu'il pense, Pro, SPA, SPDS 3, ou alors différents trucs. Et vous voyez, c'est tous des Windows. Là, je tiens à remercier Ryan Spangler, c'est quelqu'un qui a essayé Chronos, et qui m'a donné énormément de signatures sur les Windows. Donc, n'hésitez pas à m'en envoyer, s'il vous plaît. Alors, comme tout à l'heure, on va relancer sur le même OS les mêmes conditions Nmap. Alors, dans ce cas-là, sur cet OS-là, donc là au ChronOS, tu as vu que c'était un Windows. Nmap trouve qu'il s'agit d'un Nokia M1122 DSL Router. Bon, il a l'air sûr de lui, il donne ça que comme possibilité. Donc, pourquoi la différence? Chronos trouve un Windows, Nmap dit que c'est un Nokia. Donc, une des possibilités, il faut savoir que Nokia fait du signe relais, c'est que Nmap voit en fait du signe relais, tandis que Chronos voit derrière le signe relais, et voit en fait l'OS qui est protégé par ce signe relais. Alors, pour bien comprendre, j'explique brièvement ce qu'est un signe relais. Donc, un signe relais, initialement, c'est prévu pour éviter les signe flooding. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand un client tente de se connecter au serveur, donc le paquet SIM traditionnel, et c'est le relais qui prend l'action sur le serveur et qui finit la connexion TCP. Une fois seulement que la connexion est complétée, il fait pareil. Le signe relais entame une connexion avec le serveur. Et ensuite, le signe relais agit un petit peu comme un proxy transparent au niveau TCP. C'est-à-dire que ça se passe comme si le client et le serveur étaient connectés l'un à l'autre en TCP. Alors, donc, l'explication pourquoi Nmap voit Nokia et Chronos voit des Windows, c'est que Nmap, lui, en fait, il va auditer le signe relais. Parce que c'est le début de la connexion, c'est le début de la connexion que Nmap agit. Tandis que Chronos qui était lancé donc avec les états Framework 1 et la stack, donc sur les déconnexions TCP, agit à ce niveau-là, au niveau du serveur. Donc c'est pour ça que on ne voit pas pareil. Donc si je résume, tout seul ChronOS, il voit l'OS qui est derrière le Nokia, le signe relais, mais il ne voit pas le signe relais. Tandis que là, lui, il voit le signe relais. Donc si on veut avoir un audit complet de l'architecture que vous auditez, il faut utiliser les deux outils conjointement. Je tiens à préciser d'ailleurs au fait que si on peut lancer Nmap avec Chronos avec les deux options, soit avavec l'option de la synthétique de Nmap et avec le Node, ce qui ajoute des performances des deux. Des questions ?
Comment réagit Chronos quand on écrit un OS qui est émulé par un autre OS ?
Je sais que j'ai déjà fait des essais avec du VMware avec des UML. VMware, donc, c'est un virtuel, une machine virtuelle aussi qui permet de faire tourner des OS sur d'autres OS. Et on ne voit pas en fait, c'est transparent. On ne voit pas en fait que l'OS est basé sur un autre OS.
Il y a un papier qui a été posté il y a un ou deux mois sur le crack qui rassemblait pas mal justement de techniques pour falsifier en fait l'empreinte d'une pile TCP, donc pour BSD ou pour Linux. Vous avez essayé des chronos sur des techniques de ce type.
Dans les proceedings de la conférence, on parle un petit peu de ces éléments-là, notamment ce qu'on appelle les packet scrollers. On s'aperçoit en fait que dans des états far-weight, c'est assez compliqué d'aller agir sur ces timeouts. Donc c'est des choses très compliquées à cacher. Bon, il est assez facile en effet, avec certains équipements purs, de filtrer des paquets normaux au sens RFC. Il est assez facile de modifier des TTL, des choses qui sont couramment utilisées pour reconnaître des OS. Mais dès qu'on commence à aller dans les aspects gestion des RTO, même si c'est modifiable, on a beaucoup plus de risques d'être bord, c'est des choses beaucoup plus complexes à modifier. Donc la personne qui avait fait le papier évoquait la possibilité d'aller modifier ses paramètres, mais disait qu'elle n'avait pas fait non plus. Hein.
Oui, c'était surtout axé en frame de
build. Exactement. C'est toujours possible d'aller remodifier son stack, d'aller modifier ses paramètres là, mais ça devient encore plus complexe que des modifications classiques, on va dire. Surtout qu'on risque de complètement risquer.
Ceci dit, il existe quand même un certain nombre d'OS qui offrent des possibilités de paramétrage de l'appui, notamment au niveau des timeouts de l'automate d'état de TCP. Sur Solaris, HP, on trouve ça assez couramment. Et dans les recommandations de base pour durcir le système, notamment, on agit sur ces timeouts. Donc est-ce que l'outil là, vous avez testé justement?
On a un ami qui a fait le test avec un Windows, donc il a essayé d'amuser entre guillemets à paramétrer son Windows pour qu'on n'arrive plus à le détecter. Il est arrivé, mais son Windows ensuite avait des performances de réseau très dégradées. Donc je vois mal un administrateur d'un site un peu sérieux risquer de d'écouler un peu les performances de son serveur.
Oui, enfin ça marche assez bien avec les systèmes Linux, Solaris, HP, tout ça, c'est éprouvé, cette optimisation des timers. Est-ce que vous avez testé justement face à ces...
Non, d'accord.
Donc, une dernière question.
Est-ce que vous envisagez en fait de faire un outil qui capture de manière automatique les signatures, d'automatiser en fait cette collecte de signatures?
C'est un peu prévu, oui. Mais c'est encore un état.
J'ai une remarque encore complémentaire sur moi. Par rapport à tout problème lié à la LinkNet, etc. Est-ce que vous avez...
La LinkNet, ça va, en fait, c'est par rapport à la gestion du firewall. Gestion du firewall, donc il faut avoir quand même une gestion du firewall assez fine. Donc, dans un premier temps, on avait pensé, on va même implémenter avec la LinkNet qui permet de contrôler les firewalls. Mais il n'y a pas les spécificités assez grandes au niveau des règles qu'on peut mettre pour utiliser la LinkNet. Il faudrait aller dans On a fait des tests qu'avec le fait l'adducteur qui permet de gérer les flags TCP exactement, quoi, d'autoriser certains flags et pas d'autres.
Alors, j'avais compris que vous aviez eu des petits soucis vis-à-vis de la gestion des réponses ou des non-réponses à des flags fins, etc. Je pensais à une librairie qui est en open source aussi, la LC Réseau, je pense que vous connaissez. Est-ce que vous avez regardé si dedans il y avait des fonctionnalités qui vous permettraient d'être récupéré pour être intégré dans votre outil?
Je vous propose de, si vous avez des questions, soit les poser en offline à cette équipe, et sinon durant la room session, nous serons présents de toute façon. La room session aura lieu après les deux prochaines présentations et la fin de cette session. Merci à l'équipe. Ok, le prochain présentateur, on va continuer, donc pas toujours, vous allez survivre.